Ça se passe à Trois-Rivières avec Serge Manceau, la balado-diffusion trifluvienne pour la tribu trifluvienne, ainsi que tous les amoureux de la trifluvie. Abonne-toi sur le distributeur de podcast de ton choix pour être au courant de chaque nouvel épisode. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit Thomas Grégoire, directeur général et artistique du Festivois de Trois-Rivières. Alors, c'est un grand retour aujourd'hui. On est jeudi le 14 octobre 2021. Je vais mettre le podcast en ligne dès ce soir. C'est un grand retour après un été d'absence. J'en ai parlé un petit peu sur la page Facebook. C'était pas évident, là, coacher l'équipe de soccer, le Tippett, pendant l'été et maintenir un podcast en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été absent tout ce temps-là. Donc, ensuite, le mois de septembre, c'est la rentrée, hein, évidemment, le retour à l'école, tout ça, ça nous tient pas mal occupés comme parents. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été absent tout ce temps-là. Alors, on revient aujourd'hui avec une formule modifiée. Donc, je disais, je me rappelle pas si j'en ai parlé avant, mais en tout cas, je vais en parler maintenant. J'ai un peu moins de temps pour maintenir la page web du podcast. C'est pas évident, c'est beaucoup de travail. Et puis, bon, j'ai d'autres projets. J'ai un travail à temps plein aussi, dans la vraie vie. Hein? Et j'ai aussi quelques autres projets là en cours. Donc, le temps se fait rare. Mais je voulais tout de même continuer à maintenir la balado. Alors, je verrai qu'est-ce qui arrive avec la page web, si je la tiens à nouveau à jour ou pas. Je vais poster sur la page Facebook les nouvelles de quand il va y avoir des nouveaux épisodes, tout ça. Mais pour le reste, là, la page web en tant que telle, on verra ce qu'il y en est. Maintenant, les épisodes à partir de maintenant devraient être diffusés à tous les deux semaines, parce que à chaque semaine, ça devenait ça aussi assez lourd à gérer, avec évidemment aussi l'aspect technique, le montage à faire pour chaque épisode. Initialement, je faisais une petite toune pour chaque invité, avec une petite toune d'intro, une petite toune de sortie. Ça devenait vraiment... c'était lourd, c'était difficile à maintenir. Donc, je vais maintenant me concentrer, comme je le disais, uniquement sur les entrevues avec les divers invités. Donc, cette semaine, on a Thomas Grégoire, donc une rencontre qui s'est faite au bureau du Festivois il y a quelques semaines de ça. Je vous laisse écouter et puis pour cette entrevue-ci, on s'est concentré donc sur l'événement en général, si on peut dire, avec une promesse de se rencontrer à nouveau, probablement quelque part au mois de novembre, quand on en saura un peu plus sur ce que devrait être l'édition 2002 du Festivois. On a bon espoir de connaître une édition qui sera plus près de la normalité qu'on a connue par les années passées avec le Festivois, mais je vous laisse écouter Thomas qui nous en parle durant son entrevue.
OK, c'est bon, alors c'est parti. Donc, Thomas Grégoire, bonjour, bonsoir.
Oui, bonsoir.
J'allais dire bienvenue chez nous parce que je suis habitué de recevoir les gens en virtuel dans mon sous-sol, mais là, c'est merci de me recevoir chez vous pour cette entrevue aujourd'hui.
Merci de nous accueillir dans ton podcast et puis on est content de le faire chez nous dans nos bureaux et surtout en présentiel parce qu'on a eu l'occasion beaucoup de le faire dans les derniers mois.
Donc, oui, exactement.
Merci de l'invitation.
C'est spécial. En tout cas, merci à toi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, Thomas, tu es directeur général et artistique au Festivois de Trois-Rivières. Pour quelqu'un qui viendrait de l'étranger ou qui est un extraterrestre, dis-nous un petit peu, c'est quoi le Festivois?
Le Festivois, c'est un bel événement musical qui se déroule chaque année, fin juin, début juillet, là, sur 9-10 jours, à Trois-Rivières, en pleine ville, c'est-à-dire dans le quartier historique de Trois-Rivières, au centre-ville de Trois-Rivières et au bord du Saint-Laurent, parce que dans notre belle ville, on a la chance d'avoir tous ces éléments-là. Mm-hmm. Et on transforme la ville au son de la musique parce qu'on programme une centaine de spectacles sur 10 jours, puis tous styles musicaux confondus, c'est ça qui fait la beauté du Festivois, je pense. C'est la diversité musicale, donc on peut avoir du hip-hop, du punk, du rock, du jazz, de la musique classique. Bref, on navigue là-dedans. C'est, comme je l'ai dit, c'est 100 spectacles. Puis ça commence à peu près en général en fin de journée, 4-5 heures d'après-midi. Puis ça peut finir aux petites heures du matin parce que on a aussi des spectacles dans les bars à Trois-Rivières pour toute la programmation qui est un peu plus underground. Donc c'est une belle diversité dans des lieux assez magiques quand même, chargés d'histoire, mais qui sont aussi tournés vers l'avenir, puis au bord du Saint-Laurent, hein, qui est un peu l'identité du Québec. Mm-hmm. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour essayer de faire un beau festival, puis je pense que le festival, c'est un très beau festival.
Ouais, je pense qu'à chaque année, c'est une belle réussite. Puis ça serait quoi la mission derrière le festival?
Ben, la mission, c'est vraiment de rendre la culture accessible au plus grand nombre à travers la musique, puis de mettre en valeur la ville de Trois-Rivières, puis de la région. Donc on est vraiment pleinement là-dedans. Là. L'objectif pour nous, là, quand je te parlais d'une centaine de spectacles, c'est de les offrir au plus grand nombre. Il y a des spectacles gratuits, mais sinon, même la passe ou le passeport, la dernière édition normale, on était à $49 pour 9 jours de spectacle. Pour tous les spectacles, c'est vraiment très, très, très accessible. Ouais. C'est ça notre mission. Et en même temps, c'est aussi de faire découvrir la ville sous un autre regard. Les rues sont piétonnes en centre-ville pendant le festival. On installe des scènes dans des lieux de patrimoine que les gens connaissent pas forcément. Exemple, la cour arrière du monastère des Ursulines. On a une super belle scène là-bas. De mettre en valeur la ville. En tout cas, c'est ça notre mission. Ouais.
Okay. Puis tu me parlais de ton background un peu tantôt. Ouais. Toi, tu as commencé comme bénévole au Festivois.
Mais oui, pour ceux qui entendent mon accent, moi, je viens de l'ouest de la France. Ça fait longtemps que je suis au Québec, là, plus d'une quinzaine d'années. Mais quand je suis arrivé à Trois-Rivières, ben, je connaissais évidemment personne. Hein. En tant qu'immigré, évidemment, personne nous connaît, puis c'est bien normal. Donc, faut faire des démarches, dans le fond, pour que les gens nous connaissent. Donc, je suis passé à la fois par le sport, où je me suis inscrit au soccer. En tant que bon européen, le soccer était la voie d'accès plutôt que le hockey où là vraiment je suis vraiment pas habile, puis aussi pour connaître du monde, mais c'était m'impliquer dans ma communauté. Puis il y avait ce beau festival qui s'appelait à l'époque l'International de l'art vocal, qui est devenu le Festivois. Puis j'ai décidé de m'impliquer comme bénévole, d'abord parce qu'évidemment je suis un passionné de culture puis de musique, et donc il y avait ce beau festival là, puis aussi pour connaître du monde, m'impliquer. Donc grâce à ça, ben j'ai pu connaître plus de gens, puis j'ai été super bien accueilli en général par la grande majorité des gens que j'ai pu côtoyer au fil de ces années. Puis ça m'a permis de connaître ce festival, puis de fil en aiguille, en connaissant les gens, à un moment donné, il y a eu une opportunité d'emploi, puis j'ai commencé ma carrière au Festivois, puis j'ai appris beaucoup, puis j'espère que j'ai pu amener aussi des belles choses à l'organisation.
Je pense que oui.
Ah ben, tout est un travail d'équipe, hein. On fait jamais rien tout seul. Puis moi, là, je suis très fier d'avoir commencé comme bénévole. Puis je suis aussi bénévole encore dans d'autres organisations. Je trouve ça super important. Puis tous les efforts conjugués de chacun, ben, comptent pour réussir un bel événement. À la fois les partenaires qui nous aident, parce que Festivois, les gens savent pas, mais c'est 80% de revenus autonomes, de revenus privés. Okay. Il y a la billetterie, l'exploitation, mais les commandites, les partenaires, puis on est très soutenus par la communauté d'affaires ici. Mm-hmm. Les gens aiment beaucoup l'événement, donc les efforts de chacun, là, des bénévoles, l'équipe de permanence, les gens qui viennent nous aider, les artistes, les techniciens, bref, tout ce monde-là, et ben on fait collectivement, je pense, un beau festival. Puis on se remet en cause, j'espère, chaque année, là, pour essayer de progresser encore davantage.
Puis l'équipe régulière, les employés, ça représente combien de personnes peut-être?
Ben, disons que dans un monde plus habituel, c'est sûr qu'en ce moment, hein, on le sait, on est dans une période un peu compliquée. Avec la pandémie, on a dû réduire la taille de l'organisation, le chiffre d'affaires aussi a évolué. Mais disons que dans une année normale, on tourne entre 8 et 10 permanents. Okay. Par contre, à partir de janvier, on peut être une vingtaine. Ensuite, à partir de février, plutôt avril-mai, on peut être une quarantaine, cinquantaine. Puis quand on approche de l'événement, ben on peut être plus d'une centaine, 150, sans compter les bénévoles qui sont plus de 400 pendant l'événement. Donc les gens se demandent souvent, mais oui, mais vous faites un festival, vous devez travailler juste au dernier moment, en gros. Non, ça prend énormément d'organisation. Surtout un festival comme le nôtre, on occupe des lieux qui sont pas à nous. Hein. Ouais. On arrive et on doit s'installer avec le moins de temps possible et on doit partir le plus tôt possible. On a 15 scènes en tout. À chaque fois, ben, ça prend des équipes techniques, des décors, de l'éclairage, des commanditaires, de l'accueil, etc. Puis aussi, le fait de programmer autant de spectacles, 100 spectacles sur 9 jours, c'est un travail quand même très, très important. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que ça prend du monde. Ça prend des gens qualifiés, puis surtout des gens motivés dans tous les domaines. Et puis, ce qui est beau aussi dans nos bénévoles ou dans tous les gens qui travaillent pour nous, c'est qu'on est vraiment multigénérationnel. Puis c'est ce que représente aussi le public du Festivois, mais y compris les gens qui travaillent avec le Festivois ou pour le Festivois, ben on a des gens de toutes sortes de milieux, puis de toutes les classes d'âge.
Puis ça se fait, tu l'as dit, assez rapidement là, quand même. Ouais. Je pense qu'en dedans d'une semaine, toutes les scènes sont montées. Puis ouais. Même chose après, en dedans d'une journée ou deux, il n'y a plus de traces du festival dans le centre-ville, pratiquement.
Ben, disons que oui, ben, ça prend un peu plus de temps que ça. Ça nous prend un mois pour monter, mais c'est vrai que ce que les gens voient au dernier moment, les scènes, effectivement, arrivent dans les dernières journées. Tout l'aspect technique, ça va très vite, là, cette dernière semaine. Puis effectivement, deux jours après, il n'y a plus d'aspect technique. C'est plus les aménagements, des estrades, du mobilier. Ben là, on prend un peu plus de temps que ça, mais quand même, c'est quand même un défi technique et logistique parce que c'est quand même gros. On accueille, je l'ai pas dit au début, mais c'est plus de 300 000 visiteurs qui viennent pendant 9 jours. C'est à peu près 30 000 par jour. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Notre plus grande scène peut accueillir 15 à 20 000 personnes. Puis la plus petite, je pense qu'il y a celle du Zénob au centre-ville, c'est 60 personnes ou 70 personnes. Donc, mais c'est ça qui est beau parce que pour nous, tout compte dans la programmation, des artistes qui sont très connus comme les artistes qui sont moins connus, mais qu'on a envie de faire découvrir aux gens.
Oui. Puis, tu parlais de l'historique un peu du festival tantôt, qui était l'International de l'art vocal avant. Avant ça, c'était le Festival de l'art vocal, je me trompe pas. Puis avant ça, le Festival de Trois-Rivières.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est quoi la différence entre le festival puis les autres festivals qui étaient là avant?
Ben, je te dirais qu'à l'origine, parce que là, ça va être notre... Est-ce qu'on a fait notre 28e ou on va vers la 29e? Écoute, je sais pas, mais je me souviens plus. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à l'origine, c'est la ville, en fait, qui a créé un festival à partir de... Comment dire? C'était pas une organisation à but non lucratif. Il n'y a pas de conseil d'administration. C'était le Festival Trois-Rivières. C'est la ville qui disait, ben, nous, on aimerait ça avoir un festival pour notre ville. Donc, ils ont commencé à créer ça comme une super fête de quartier, dans le fond. Mm-hmm. Comme ça existe dans les districts, etc. Donc, ça a commencé comme ça. Puis là, l'événement a commencé à grandir un peu. Puis là, la ville a décidé de créer de mettre en place une structure administrative indépendante, donc une organisation à but non lucratif, puis ça s'appelait effectivement le Festival de l'art vocal, puis c'est devenu l'International de l'art vocal, ça a grandi. Puis plus les années ont passé, moins la ville avait à voir dans l'organisation. Dans le fond, elle était comme partenaire, comme soutien, mais c'était plus elle la force motrice en fait de l'organisation. Puis à un moment donné, l'événement a grandi, puis la programmation s'est un peu étoffée, puis le nom International de l'art vocal correspondait plus du tout à la programmation qui se faisait. Dans le fond, il y avait à l'origine, il y avait beaucoup de chorales, il y avait des groupes qui venaient de partout dans le monde pour ça, puis il y a toujours eu des chorales, puis il y en a encore aujourd'hui, mais c'était plus leur place, c'était pas la plus importante dans la programmation artistique du festival, donc le nom avait quand même plus vraiment de sens, les gens se reconnaissaient moins là-dedans. Donc en 2007, je pense qu'il y avait une année qui avait été assez difficile pour l'organisation. Puis ils avaient fait des sondages, des focus groups avec les gens du public, les gens des médias, les artistes, etc. pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce festival? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose d'art vocal, etc. Puis finalement, les gens ont indiqué qu'ils tenaient au festival, puis ce qu'ils aimaient, c'était la diversité de la programmation, mais qu'ils avaient un peu besoin d'aide, dans le fond, pour s'orienter dans cette programmation. Puis ils ont dit, en fait, c'est un festival avec différentes voix, différents styles musicaux. Puis le nom du festival a été trouvé, puis ils sont apparus dans la programmation, mais une scène pour les voix jazz, une scène pour les voix folk, une scène pour les voix rock, etc. On a commencé à catégoriser un peu comme ça la programmation. Puis le festival venait passer en quelques années, je dirais, d'un festival qui était très local, un peu plus gros qu'une fête de quartier ou de district, comme je disais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il y a un festival qui a une dimension nationale, puis qui accueille de plus en plus de gens aussi de l'international, à la fois des artistes, mais aussi du public. Tu sais, la notoriété a vraiment augmenté, et puis au fil des années, le budget aussi, et puis l'ensemble des partenaires. Avant, c'était très subventionné ou très soutenu, puis c'était normal, comme ça doit se faire dans la culture, mais plus les années ont passé, plus le festival a pris son indépendance, puis s'est développé grâce au soutien du public, puis un public de plus en plus nombreux, puis qui est composé à plus de la moitié de gens qui viennent de l'extérieur de Trois-Rivières et de 40 kilomètres autour de Trois-Rivières.
Ouais. Puis tu le disais, là, ça prend une dimension internationale, parce que moi, dans mon expérience personnelle, là, j'avais à un moment donné une casquette d'il y a, je me rappelle pas, c'est il y a 3-4 éditions, il y avait eu la casquette avec l'étoile sur le devant. Ouais. J'étais aux États-Unis, puis là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi cette casquette-là, est-ce que t'es communiste? Puis je me suis reviré de côté, puis il a vu Festivois sur le côté, il dit, ah oui, tu fais le Festivois, on connaît ça. Fait que c'est vraiment ailleurs qu'au Québec, là.
C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire quand même de ce côté-là. Ouais, j'aime ton anecdote, je suis content de l'entendre. Mais c'est sûr que d'abord, même notre notoriété, le Festivois fait partie maintenant du regroupement des événements majeurs internationaux du Québec, le REMI, avec le jazz, avec le Festival de jazz de Montréal, le Festival d'été de Québec, les Montgolfières à Gatineau, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc notre notoriété a vraiment augmenté, puis on a vraiment une reconnaissance au niveau provincial sans aucun doute, plus national, mais il y a encore de, mm-hmm. du chemin à faire. Par contre, au niveau artistique, on accueille des artistes de partout. Ça a été le cas hein, avant avec les chorales, mais là on est sur des artistes, comment dire, dans tous les domaines musicaux. On a accueilli Offspring, on a même accueilli Drake, bon, qu'il y en a canadien, mais j'en sais pas, mais en 2007, je pense qu'il y avait Drake au festival, à l'époque, il n'était pas du tout connu.
Non.
Aujourd'hui, on aimerait bien l'accueillir,
mais
on n'a pas les moyens. Mais non, on n'est pas encore rendu là, un jour peut-être.
Ouais. Puis bon, ben, on le sait, hein, les deux dernières années ont été difficiles dans tout ce qui est milieu artistique et milieu événementiel. Là. Ouais. 2020, il y a juste pas eu d'édition du tout. 2021, le festival a été dans les précurseurs. Ouais. Ça a été le premier événement d'envergure au Québec, si c'est pas au Canada, si je ne me trompe pas, à recevoir des gens. Ouais. Est-ce qu'on tire des leçons de ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris grâce à ça?
Ben, bien sûr, d'abord, pendant la pandémie, c'est sûr que l'édition régulière du festival n'a pas pu avoir lieu là, en 2020. L'édition a été annulée, on a fait une édition quand même virtuelle, mais par contre, pendant les 15 mois qui nous ont empêchés de faire l'édition comme on l'a fait cet été au mois de juin en 2021, on a quand même été très actifs. Alors, on a organisé un petit festival de punk quand on pouvait le faire dans la piscine de l'Expo à Trois-Rivières, qui est une piscine des années 30-40. On a fait de nombreux spectacles virtuels, toutes sortes de concepts. Nous, on aime bien aller dans des lieux justement qui sont pas faits pour accueillir des spectacles, puis les transformer. Alors, on a fait des choses dans aux Forges du Saint-Maurice, avec un lieu patrimonial. Je t'ai parlé de la piscine de l'Expo. On a fait un spectacle au Cirque des Artistes dans un hangar à avions où il y a des Boeing et puis des Airbus qui se font restaurer là, chez l'entreprise AR à Trois-Rivières. On aime un peu, on aime beaucoup même prendre des lieux qui sont pas faits pour ça puis les transformer. Donc on a eu quand même plein de belles expériences. On a appris beaucoup de ça. On a gardé le contact avec notre clientèle. On a même produit une chanson de Noël. On va sans doute le refaire encore cette année. Bref, on a exploré tout ce que nous autorise notre mission, dans le fond, faire connaître la musique, c'est le principal. Puis, au mois de juin 2021, effectivement, on a ouvert une édition du festival dans des conditions, évidemment, optimum au niveau santé et sécurité. Mmh. On a suivi scrupuleusement les recommandations de la santé publique du Québec. Puis on a fait une édition où évidemment on a pu accueillir beaucoup moins de monde que d'habitude, mais une très belle édition parce que c'était effectivement dans les premiers événements au Québec qui repartaient. En tout cas, de notre envergure, on était les premiers. Puis il y a eu beaucoup d'émotions dans les retrouvailles entre les artistes, le public. Puis beaucoup de respect aussi des festivaliers avec les mesures sanitaires. Vraiment, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Puis on a vraiment vécu des beaux moments parce que et c'est sûr qu'on est heureux quand on peut accueillir des dizaines de milliers de personnes, mais si on a la chance déjà d'en accueillir quelques centaines ou quelques milliers, ben c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça que les bénévoles sont là aussi pour entendre la musique puis avoir des gens en présentiel. Le virtuel c'est bien, on va continuer hein, ça permet d'être créatif sur plein d'éléments, mais il n'y a rien qui remplace le spectacle vivant et puis la communion entre les artistes et le public. Là, je pense que tu en penses.
Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Puis dans le fond, est-ce que les nouveaux emplacements pourraient amener à avoir encore plus d'emplacements ou être différemment placés dans les années subséquentes? Là,
mais je dirais que c'est sûr que chaque année, d'abord, on observe ce qu'on fait, on se remet en cause, on voit comment on peut s'améliorer, puis on cherche à gagner de l'espace dans un site qui est devenu pas si grand que ça, parce que comme j'ai dit, on occupe le centre-ville, puis on peut pas casser des maisons ou des immeubles pour gagner de l'espace. On pourrait faire le choix d'aller ailleurs sur un autre site complètement dans un grand champ ou un grand stationnement, mais l'essence du festival, c'est quand même le lieu aussi, la musique et le lieu. Donc on réfléchit, puis effectivement cette année, dans des aménagements, une scène en particulier, la scène qu'on a appelée scène Port de Trois-Rivières, qui est au bord du fleuve, on sait qu'on veut améliorer, la bonifier, puis ça va rester. Par contre, on avait installé des structures en échafaudage là, pour faire en sorte que les gens respectent les mesures sanitaires sur notre scène principale. On souhaite évidemment qu'il n'y ait plus autant de mesures restrictives l'année prochaine si la pandémie arrive à se calmer, parce qu'on a besoin de cet espace-là pour accueillir des milliers de personnes. Donc voilà, mais il y a toujours des idées, toujours des choses à retenir sur l'aménagement des sites. Puis on a eu des nouvelles idées et puis des nouvelles manières de faire. Puis on est riche aussi des autres années aussi. Puis au niveau virtuel, on a appris quand même pas mal de choses aussi. Donc tout ça va faire en sorte, j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer, comme je disais, puis offrir une édition 2022 qui va être, j'espère, spectaculaire.
Peut-être plus la diffuser aussi, justement.
Oui, tout à fait.
Si on veut être plus à l'international.
Exactement. Exactement.
Puis comme directeur artistique, ouais. Thomas, dis-moi un peu comment ça fonctionne, ouais. mettons, comme les gros noms justement qu'on reçoit ouais. chaque année, parce qu'on reçoit des gens ouais. qui sont vraiment connus. Ça, ouais. c'est d'où vient l'idée? Comment tu décides, OK, cette année, c'est eux autres qu'on signe, puis comment ça se passe?
Oui, bien c'est sûr que d'abord, la direction artistique, elle s'exprime dans plusieurs domaines. Si je parle d'un point de vue plus général, c'est plus tu sais la vision que tu veux donner à un événement. Donc nous, à la fois dans la programmation, c'est la première ligne, c'est la diversité. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Il faut qu'on retrouve des artistes connus puis des artistes moins connus dans à peu près chaque secteur musical, chaque créneau musical. Puis ensuite, il y a la direction artistique qui s'exprime aussi dans l'aménagement des sites. Mm-hmm. Quel décor, quelle ambiance on veut créer par site. Puis c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des artistes en art visuel à Trois-Rivières. On l'a fait cette année encore plus avec l'atelier presse-papier puis l'atelier Silex là, qui sont des ateliers d'artistes vraiment reconnus à l'échelle du Canada. Là, on a la chance de les avoir à Trois-Rivières, on travaille avec eux. Puis la direction artistique, ça s'exprime aussi dans la vision, dans les communications, comment dire, dans la manière dont les visuels sont faits, etc. Donc c'est tout ça. Puis quand on parle de programmation, ben là on a ce qu'on appelle un comité de programmation, parce qu'il faudrait être fou pour décider tout seul de ça. D'abord parce que personne n'a la science infuse, et puis c'est un comité de programmation puis avec des gens autour de la table qui représentent différents styles musicaux, puis qui peuvent penser par rapport à leur propre goût, mais aussi comme une expérience des goûts du public ou du public que eux fréquentent. Il y a un exemple, on pourrait avoir un amateur de hip-hop autour de la table, et lui, il faut qu'il parle en son nom, mais il faut qu'il arrive à parler aussi pour la clientèle hip-hop, parce qu'il fréquente des événements où il y a du hip-hop ou des spectacles où il y a du hip-hop. Puis chacune de ces personnes au sein du comité de programmation parle aussi à d'autres gens en toute confidentialité. Donc nous, on a une ligne directrice quand même par scène qui est assez claire au niveau du style musical, de ce qu'on veut. Comme je te disais, on veut toujours des artistes connus. Puis en même temps, on veut aussi des artistes plus émergents. Donc on peut faire sur une scène un mélange entre, exemple, Marc Dupré sur la scène principale. Puis en première partie, on va mettre Jérôme 50, qui est plus un artiste émergent du Québec, pour que les gens l'apprennent à le connaître. Donc, puis, si on a la scène de jazz, ben sur le jazz, on va mettre deux, trois artistes qui sont connus ou plus grand public. Puis on va mettre du jazz plus pointu. Des fois, on va mettre un peu de blues ou de la bossa nova qui est connexe. Puis quand on parle de punk rock ou quand on vise, ben là, on regarde les artistes qu'on pourrait faire, qui peuvent plaire à une certaine clientèle. Quand on a fait Offspring, c'était quand même un coup gagnant parce que... à la fois, ça réunit les amateurs de punk ou de punk rock, mais ça réunit aussi le grand public, parce que les chansons d'Offspring, tout le monde les connaît ou les connaissait, ça passe encore à la radio. Donc, quand t'arrives à faire ça, puis que t'arrives à voir ces artistes-là, ben ça, c'est une bonne nouvelle pour le festival. Puis plus ça va, plus les gens écoutent la musique d'une manière très diversifiée, parce que avec les Spotify et puis les compagnies de streaming, au niveau de la musique, les gens, c'est très mélangé maintenant leur goût, alors que moi, j'ai grandi à une époque où quand même les gens, t'étais rock, t'étais moins techno, c'était assez catégorisé d'acheter des albums, etc. Aujourd'hui, tout ça est très mélangé et les gens, et notre festival correspond à ça. D'ailleurs, des festivals où il y a un genre unique, il y en a de moins en moins, c'est pas forcément ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui offrent une belle carte, parce qu'on peut très bien aller à un show de punk, puis ensuite avoir écouté avant ou après un show de indie, en ayant écouté de la chanson francophone avant, c'est possible de faire ça, ou d'avoir écouté de la musique classique le matin, puis tant mieux, parce que la musique doit se partager, puis doit être diversifiée. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont des parcours, mais ils ont commencé par un groupe de métal, puis finalement ils ont basculé vers exemple du reggae ou je sais pas quoi, puis c'est bien correct comme ça. Je trouve que il y a une plus grande ouverture. Puis les jeunes eux-mêmes écoutent la musique de cette façon-là. Parce que bon, il y a beaucoup de hip-hop, mais pas seulement, parce que via leurs réseaux sociaux, via les séries qu'ils écoutent, souvent les styles de musicaux sont partagés. Je me souviens quand le jeu était sorti, là, je pense que c'est pas Guitar Hero, sur la console, là, où il fallait, ben là, il y a plein de jeunes qui avaient redécouvert les classiques de rock ou de hard rock, de guitare. Donc, il y a une ouverture à la musique, je pense, qui est plus grande, peut-être qu'à une certaine époque, les goûts sont plus mélangés. Donc, dans notre programmation, ça doit refléter ça. Puis on l'a vu cette année où on a programmé en temps de pandémie une quarantaine de spectacles. Puis on avait des billets à vendre, mais une partie de ces spectacles, on savait que c'était assez pointu ou plus confidentiel. On s'était dit, ben, on vendra peut-être pas tous les billets parce que puis c'est correct de même. C'est un choix, justement, un choix artistique. On veut quand même programmer ces artistes-là. Et finalement, On a vendu 90% de nos billets parce que les gens ont une vraie envie de une vraie curiosité, une vraie envie de découverte. Je pense qu'un festival comme le nôtre, qui proposait pas aux gens des artistes qui connaissent pas, ce serait dommage. C'est sûr que les gens achètent toujours le pass du festival parce que ils retrouvent 3, 4 shows, 5 shows qu'ils veulent absolument voir, mais avec le passeport, ils se laissent aller à des découvertes. Puis c'est ça l'intérêt.
Ça donne une opportunité d'essayer d'autres choses.
Exactement. Donc, on construit la programmation de cette façon-là, en disant ok, au niveau artistique, d'abord, est-ce que c'est de qualité, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut faire, à nos standards, puis aussi est-ce que ça correspond au goût des gens, ok, puis dans un tel créneau musical, on a-tu des choses un peu plus grand public, populaire, mais on a-tu des choses un peu plus pointues, on est dans le domaine de découverte, il y a des artistes aussi de la région. C'est important pour nous parce qu'il y a beaucoup de gens extrêmement talentueux en région. Tu sais, on essaye de basculer, puis c'est ce que nous offre une programmation où il y a une centaine de spectacles. Un festival comme le nôtre pourrait se contenter de dire ben, on a 2 grandes scènes, puis on met les artistes les plus connus, puis ça s'arrête là, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Notre vision artistique, c'est vraiment la diversité musicale. Il y a des artistes qui ont commencé par jouer chez nous une année dans un petit bar ou dehors, sur une petite scène, et puis tout d'un coup, leur carrière a évolué, on les a programmés dans une plus grande scène, ou hop, puis l'année d'après encore une autre plus grande scène. Il y a des parcours comme ça qui se font. Mm-hmm. Donc c'est ça qui est chouette aussi, qui est intéressant.
Puis les petits, ils commencent où? Comment, je sais pas moi, un artiste de Trois-Rivières là, qui commence à faire de la musique, il vous envoie son CV?
Oui, ben en fait, toi, on reçoit à peu près 1000 candidatures par année.
Quand même.
T'sais, puis on peut en garder une centaine, mais quand même, on a une grande ouverture, puis... En général, faut que les gens nous envoient. On a une adresse pour ça, une programmation. Puis on étudie réellement toutes les candidatures. Mm-hmm. On regarde, puis ça va dépendre. Puis il peut y avoir des opportunités. Des fois c'est en première partie, des fois sur des scènes l'après-midi ou des petites scènes gratuites. On fait des spectacles aussi gratuits dans les CHSLD pour les gens qui peuvent pas se déplacer. On fait ça depuis plusieurs années. C'est bien important pour nous, toute la mission sociale. Puis il y a des artistes des fois qui ont commencé là, qui ont joué, qui ont donné 2-3 spectacles dans les CHSLD. Mais hop, l'année d'après, on se rappelle qu'ils ont fait ça. Puis pour les programmes sur une scène, un autre type de scène, puis ils vivent leur expérience. Beaucoup d'artistes de la région qui ont fait des premières parties avec 15 000 personnes devant eux parce que c'est sur la scène principale, donc c'est des sacrées expériences. Mm-hmm. Puis en plus, ça s'est filmé souvent. Donc on leur donne ensuite les bandes pour qu'ils puissent travailler. Donc il y a toute cette dimension-là aussi que les gens ne voient pas. L'important, c'est qu'il y a un engagement, puis que les gens, et la volonté, de nous approcher, puis nous dire, on aimerait ça jouer chez vous, puis nous, on essaye de voir si dans notre mélange, évidemment, s'il y a 100 groupes de la région ou d'ailleurs qui nous écrivent, mais qui ont le même style musical, faudra quand même qu'on en choisisse que 5 ou 10.
Choix, c'est certain.
Donc, on essaye quand même, globalement, d'être le plus, équitable, le plus juste possible, puis que ça corresponde à notre vision artistique, mais, on a plein de belles histoires quand même qui sont déroulées ici au fil des années.
Ouais, puis j'ai vu aussi sur vos réseaux sociaux, là, que vous envoyez comme des demandes aux festivaliers, aux amateurs. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines années?
Oui, puis on le fait régulièrement. Des fois, c'est des discussions. On fait un Facebook Live, on discute. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils voient bien dans quel niveau on se situe, quoi. Ils nous demandent, la plupart du temps, ils nous demandent pas d'avoir des artistes qu'on peut pas avoir parce qu'on a, on a quand même une dimension de festival. Puis on voit là encore dans la réponse des gens toute la diversité des goûts. Mm-hmm. Puis donc des fois nous, ça nous permet de découvrir des artistes qu'on connaît pas, parce que comme je te dis, on a pas la prétention de connaître tout ce qui se fait, puis c'est impossible. C'est impossible. Puis on est à l'affût, on regarde aussi beaucoup évidemment ce qui se fait dans le milieu musical au Québec. On va avoir des spectacles évidemment, l'ensemble du comité de programmation, on s'informe les tendances, en tout cas il y a plein de choses, mais surtout on discute avec les gens. Puis les gens, ils ont une très grande, les fans de musique, ils ont une très grande connaissance, souvent plus importante que la nôtre, donc c'est important d'échanger. Puis à un moment donné, on prend nos responsabilités, puis on fonce, puis après c'est le public qui décide. Hein, donc mais il y a toujours des moments où on doute, on fixe une programmation, puis entre le plan A qu'on se donne à un certain moment donné, t'es un an avant un événement, parce que c'est à peu près ça, on commence à travailler 12 à 18 mois avant l'autre édition. Le plan A, ce qu'on veut faire, ensuite, entre les disponibilités des artistes, les cachets, les enjeux de négociation, bref, il y a tout un monde, là. Puis, au bout du compte, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, pas qu'ils sont moins bons, c'est juste que ça change tellement en fonction des uns ou des autres, puis on arrive toujours à faire une programmation, à date, là, que les gens ont beaucoup apprécié, quand même. Moi, je pense qu'on arrive vraiment à faire des petits miracles, vu le prix du passeport, puis vu le nombre de spectacles, la diversité, sérieusement, on travaille très fort pour que nos prix justement reste accessible. Puis c'est pour ça qu'on a autant de partenaires, autant de commanditaires, que ça nous demande autant de travail aussi.
Ouais. Ben, écoute, Thomas, moi, ça fait pas mal le tour de mes questions. Super. Je vais laisser de la place pour une prochaine rencontre quand on aura une meilleure idée de la programmation de l'année prochaine.
Ouais.
Par contre, avant de terminer, ouais. Comme c'est ton premier passage, ça se passe à Trois-Rivières,
ouais.
Il va falloir que tu répondes à les questions que je pose à tout le monde!
Avec plaisir.
Alors, ça, je le fais, c'est la deuxième fois que je le fais en direct. Alors, ouais. Tu vois, mon talent est là. Hein, je vais peut-être passer au festival bientôt.
Ouais. C'est ton jamais.
On sait jamais. Ça le dit, c'est une section, c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque épisode. C'est en rafale, tu réponds hyper spontané. Si tu veux t'étirer, tu peux t'étirer, c'est à ton choix.
Super.
Alors, bon, ben, Thomas Grégoire, on dit originaire de Trois-Rivières ou néo-trifluvien?
Qu'est-ce qu'on doit dire, c'est ça? Ben, moi, je suis néo-trifluvien, c'est sûr.
Puis pourquoi Trois-Rivières plutôt qu'une autre ville?
Ben, le hasard de la vie, hasard extrêmement, comment dire, extrêmement positif avec moi, je pense que ça se dit mon expression, mais dans le sens où je suis arrivé, comme tout le monde immigré, ben, j'étais à Montréal au début, puis je cherchais du travail, puis la première opportunité d'emploi que j'ai eue, je m'étais dit, ben, je vais la prendre, parce que personne me connaît, puis c'était à Trois-Rivières, ville que je connaissais absolument pas, puis j'étais très, très chanceux, parce que c'est une ville et une région, la Mauricie, qui est, de mon point de vue, exceptionnelle, parce que la diversité qu'il y a ici, à la fois, naturelle, patrimoniale, culturelle, économique, ça, c'est fou. Puis la ville s'est beaucoup, beaucoup développée au cours des 15-20 dernières années.
Ouais.
Je pense que le festival, comme d'autres en culture, on a contribué à ça aussi, à faire en sorte que la ville soit plus attractive. Les compagnies aussi, tout le travail des différentes organisations de la ville. Donc, j'ai été extrêmement chanceux d'avoir une première opportunité d'emploi ici. Puis j'ai découvert une communauté aussi d'humains. Hein. C'était des gens extrêmement sympathiques, généreux, ce qui m'a permis de m'épanouir ici. Mais vraiment, maintenant, Trois-Rivières, j'en fais la promotion. Puis je considère ça que j'étais vraiment chanceux de pouvoir arriver ici. Puis de contribuer au développement de la ville modestement, là, mais avec le festival.
Pour la prochaine question, tu as un petit parti pris, mais ton événement annuel favori à Trois-Rivières?
En dehors du festival?
Attends, je vois, écoute, c'est sûr que... Bon.
C'est une bonne question, mais c'est sûr que mon événement favori, c'est forcément le festival, évidemment, mais je répondrai par... En fait, c'est l'ensemble des événements qui composent, et puis des activités culturelles, touristiques qui composent la ville. Je pense qu'on est... franchement, là, c'est une ville super dynamique, puis aussi bien quand on pense à Danse Encore, en passant par les biennales, des stands et de sculptures contemporaines, en passant par ce qui se fait à l'amphithéâtre, le Grand Prix des Aigles, c'est l'ensemble de la vie culturelle et touristique de la ville rend cette ville vraiment craquante, quoi. Je veux dire, exceptionnelle, je pense. Donc c'est dur de choisir. Puis les événements d'hiver aussi, je pense qu'on pourrait essayer collectivement d'en développer davantage. Mais on a la chance quand même d'avoir une multitude d'événements et d'activités avec des gens qui sont très 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 motivé, très dévoué aussi pour faire en sorte que ces événements-là progressent.
Et puis toi, Thomas Grégoire, tu serais plus bar ou resto?
Ça dépend. Disons que ça dépend des périodes de ma vie, mais disons que je serais plus quand même bar que resto. Ça dépend des heures. Dans le fond, il y a des certaines heures, je suis plus resto. À certaines autres heures, je suis plus bar. Disons qu'après la pandémie, j'aurais été plus bar, là, parce qu'on a envie de bouger, de s'exprimer, de danser. Puis les restaurants aussi, parce que c'est très important de bien manger. En fait,
c'est pas le choix qui manque à Trois-Rivières.
Non, c'est ça. Un très bon restaurant. On peut commencer par un bar, aller au restaurant et puis finir par un bar. Donc finalement, pourquoi choisir?
Puis là, ben, je suis obligé de te demander d'abord ton bar préféré à Trois-Rivières.
Oh, ça aussi, c'est une question compliquée. Écoute, je vais faire une réponse de politicien. J'ai pas vraiment de bar préféré. C'est vraiment une question d'ambiance. C'est sûr qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de gens, beaucoup de bars qui sont partenaires. Mais j'aime beaucoup de bars à Trois-Rivières. Je pense au Temps d'une Pinte. Je pense au Zénob. Je pense au Contrebandier, je pense, il y en a plein, là, tu sais, je veux pas en oublier, mais
toutes les ambiances. Je peux pas toutes les nommer, là,
non,
c'est sûr.
Non, je pourrais pas toutes les nommer, mais il y a un bar, quand je suis arrivé à Trois-Rivières, un endroit où j'aimais aller, là, je connaissais pas, puis on parle de ça il y a 15, 20 ans, là, donc, ça fait quand même, longtemps. Mais j'aimais bien aller au Nord-Ouest à l'époque. Mm-hmm. au Nord-Ouest parce que il y avait de la musique, il y avait, il y a des bands qui jouaient là, mais plus émergents. Il y avait une ambiance que j'aimais là. C'était vraiment vibrant. Et puis je parlais de mes souvenirs là. Quand je suis arrivé, c'est un bar que j'aimais beaucoup. Puis avec les années, j'ai appris à découvrir tous les excellents bars qu'il y a à Trois-Rivières, puis à travailler avec eux. Puis voilà, donc.
C'est bon. Alors, finalement, qui d'autre je devrais recevoir de Trois-Rivières ou de la région, puis pourquoi?
C'est une bonne question. Qui d'autre? Moi, je pense que tu pourrais aller voir Valérie Thérien au Musée Pop. Mm-hmm. Parce que le Musée Pop a subi une grande transformation depuis quelques années. Puis là encore, je pense qu'il y a des objectifs communs avec le festival, dans le sens, c'est la culture populaire dans le bon sens du terme, dans le fond. Il y a des expositions qui sont destinées au grand public pour amener vers des expositions peut-être un peu plus pointues. Il y a la prison aussi qui représente l'histoire de Trois-Rivières. Puis c'est une organisation qui est super dynamique, qui font plein de choses aussi avec les écoles, etc. Puis je pense que c'est une personne qui a un parcours super intéressant. Puis à mon avis, elle aurait plein de belles choses à te dire.
Cool. Merci encore de m'avoir reçu chez vous, Thomas Grégoire.
Merci à toi de l'invitation, puis au plaisir de t'accueillir. Oui, de t'accueillir aussi en plein festival pour faire un podcast, pourquoi pas pendant l'événement.
C'est bon. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, c'est ce qui conclut mon entrevue avec Thomas Grégoire du Festivois de Trois-Rivières. J'espère que ça vous en a appris un peu sur l'événement, sur la façon que ça se passe derrière la scène et durant toute l'année, dans le fond, parce que c'est un événement, évidemment, là, qui nécessite énormément de préparation. J'espère aussi qu'il y a des musiciens à l'écoute, que ce soit de la région ou d'ailleurs, parce que évidemment Thomas en a dit un peu sur la façon d'entrer dans le fond dans le festival. C'est quoi la porte d'entrée, comment ça fonctionne. Alors si ça peut inciter des musiciens de la région à donner leur nom et puis à nous faire découvrir des nouveaux talents, tant mieux, hein? Alors, c'est pas mal ça. C'est mon épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je suis bien content d'être de retour. Et puis, on se rencontre dans deux semaines à nouveau. Donc, pour une entrevue avec Valérie Deschamps, qui est, elle est animatrice de radio, elle est travailleuse autonome, elle est conteuse, elle est comédienne, elle est... tas de trucs, donc j'ai bien hâte de vous la faire rencontrer. Fait que à dans deux semaines.